Bonjour à toutes et à tous, ceux qui nous visitent pour la première fois, pour la deuxième, troisième, et ceux qui sont déjà membres de cette église, que Dieu vous bénisse. Dieu est bon en toutes les choses, Dieu est bon tout le temps. Nous venons de chanter une chanson merveilleuse. Je te donne mon cœur qui ne m'appartient, c'est vrai, plus. Grâce à Dieu, hein? Nos corps ne nous appartiennent pas. Nos âmes ne nous appartiennent pas. Et nos esprits aussi. Nos êtres aussi. Toutes les choses qu'on fait, c'est à lui, c'est pour lui. Mais ce chant aussi, il dit, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne, quoi? Tout. Vous voyez? Parce que peut-être, on pouvait laisser quelque chose à part, qu'il ne pouvait faire sans Dieu, sans lui, sans sa volonté, sans sa permission. Mais ce chant nous invite vraiment à aller au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous croyons, de ce que nous pensons. Je vous invite ce matin vraiment à réfléchir ce chant que nous venons de chanter. Est-ce que nous avons vraiment donné tous nos cœurs au Seigneur, tous nos âmes au Seigneur, nos émotions, nos peurs, nos désirs, nos pensées, nos décisions? Peut-être on donne beaucoup de choses, mais la décision, non, c'est. La décision fait partie de la dépendance de Dieu, de la confiance en Dieu, de la foi en Dieu. La souffrance aussi fait partie. Luc chapitre 7, verset 11 au verset 17 parle de cet homme, cette personne qui est venue sur terre pour nous offrir son propre amour, l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour de celui qui nous a choisi pour être ici, à vie de franche, pour être ici ce dimanche. Il s'appelle Jésus. Cet homme qui a divisé le temps. Cet homme qui a eu la capacité de commencer à zéro nos temps. À zéro. En lui, le temps s'est arrêté, a commencé à zéro. Nos calendriers. Ou bien notre calendrier a commencé à zéro. Comme pour les musulmans, dès que Mohammed est venu dans ce monde, ils ont créé, son propre calendrier. C'est pour cela que la fin de l'année pour les musulmans est différente pour nous aussi. C'est différent. En Jésus, tout est commencé, même le temps. En lui. Je vous invite à voir avec moi l'exemple de cet homme qui a vu une grande souffrance d'une famille. Pas tellement d'une famille. Parce que la femme était maintenant, était dans ce moment-là, seule. Mais il a vu la famille. Il a vu la souffrance de la famille. Et je vous invite à accompagner cette, la lecture, s'il vous plaît. Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, il faut pleurer. Non, il dit, ne pleure pas. Il a dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Mais comment Jésus a parlé? On ne savait pas. Peut-être dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ou bien il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. On ne savait pas comment il a dit. La force qu'il a utilisée dans ces mots. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voilà ce qui s'est passé. Dans ce moment, dans ces récits, très important et qui se passe seulement ici dans le livre de Luc. C'est très intéressant. Avant d'aller à Naïm, Jésus, il est venu. Il faut pas. C'est moi. Voilà. Il est venu de Capharnaüm. Ok? Une ville qui était dans une distance entre 40 et 50 kilomètres de Naïm. Combien de jours? Il faut faire le calcul. Maintenant, selon les commentaires bibliques, ils ont dit qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire vraiment une précision combien de jours Jésus il a marché. Combien de temps il a marché? Combien de temps il a pris pour arriver à Naïm? Parce que ils ont, aujourd'hui, voilà, nous sommes dans ce siècle-là, il a tout le développement, des machines qui ont fait des nouvelles routes, des choses comme ça. Mais dans cette époque-là, combien de jours? Combien de temps? Il est allé, il a pris la décision de passer à Naïm, par lui-même. La Bible ne nous explique pas pourquoi. Jésus a pris cette décision d'aller à Naïm. Mais si on voit, si on peut retourner un petit peu en arrière pour comprendre qu'est-ce que Jésus a fait à Capernaüm, où il avait accompli beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de choses là-bas. Et je trouvais ici entre 5 et 6 miracles, actes de Jésus dans cette ville. Mais pourquoi pas, il devait continuer y aller un petit peu plus devant. Pourquoi il n'a pas s'arrêté à Capernaüm? Et il a prêché, il a préparé encore des disciples, des apôtres. Il a fondé. Pourquoi il n'a pas fondé beaucoup des églises là-bas? Pourquoi toujours il avait cette disposition, ce désir, cet amour d'aller un peu plus devant? La guérison du serviteur du centurion romain. Il avait guéri la belle-mère de Pierre. Il avait aussi guéri, il avait échassé le démon de quelqu'un qui était tourmenté par un mauvais esprit. Il a guéri aussi un paralytique. Il a guéri aussi un homme qui servait à une personne qui appartenait à la haute société, Jaïrus. C'était un commandant, un général peut-être, de l'armée romaine. Il est allé, il a guéri. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais il n'a pas s'arrêté à Capernaum pour donner tout ce temps, le temps de sa vie. Non. Il a continué à faire ce qu'il devait faire. De prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer le royaume de Dieu, de partager aux autres qu'il est venu, pas seulement pour guérir les malades, ressusciter les morts. Non, pas seulement ça. Mais il est venu pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Qu'il y a un espoir, une espérance de la vie éternelle. Pour ceux qui sont condamnés, pour ceux qui souffrent maintenant, il y a une opportunité. Jésus, il est venu pour nous montrer que nous pouvons aujourd'hui lui trouver. Hier, j'étais chez Pascal pour prendre quelque chose, voilà. Il nous a offert, voilà, quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Pour l'appartement. Et je trouvais Fred. Fred, c'est un monsieur, un jeune homme, très inquiétant, très intéressé aussi, pour connaître Dieu. Mais d'abord, il m'a dit, écoute, je ne veux pas être chrétien. Je ne suis pas catholique, je n'ai pas de religion, mais je voudrais seulement savoir pourquoi il y a beaucoup de dieux. Les dieux des chrétiens, les dieux des catholiques, les dieux des musulmans, les dieux d'hindous, les dieux de... Et je lui dis, je ne peux pas t'expliquer, mais il y a un livre que tu peux lire, et ce livre-là, il va t'expliquer pourquoi. Il dit, comment? Je dis, oui. Je dis, mais je t'invite à aller chez Pascal, je ne vais pas aller. Je n'ai aucune chose contre Pascal et Laurence, mais je ne vais pas aller. Parce que c'est l'église, les frères et sœurs sont là. Il dit, je vais faire comme ça, je vais t'inviter, on va aller, je dis, oui, n'importe où, tu veux aller où? Je vais aller dans un bar, je dis, c'est pas grave, je vais aller avec toi. Ah, tu vas aller? Oui, pourquoi pas? Jésus, il a fait la même chose. Il était à la table avec les publicains et les pécheurs. De cette époque, aujourd'hui, ça ne change pas. Il a des pires encore. Mais il était là. Il parlait. Il participait avec eux pour le comprendre. Et je dis, Seigneur, que tu puisses lui toucher. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est déjà une porte. Hein? Il dit, si Jésus... Viens vers moi, en personne, je vais lui accepter. Je dis, merci Seigneur. Tu peux le faire si tu veux. Donc, hein, nous sommes en train de faire ce que Jésus a commencé à faire. Partager son amour, sa grâce. Partager de ce que il voulait partager. La compréhension. Et c'est ça qu'il a fait ici avec cette femme, la veuve de Naïm. Le nom Naïm signifie jolie ville. Une ville du plaisir. C'est comme la France. Il y a des villes que c'est vrai, c'est des jolies villes. Des contres, mais c'est bon de rester ici, voilà. La nature, tout est organisé, tout est. Naïm était presque comme ça. Mais Jésus voulait aller à Naïm, pas pour voir, je ne sais pas, peut-être seulement la beauté de Naïm, mais il avait quelque chose dans son cœur qui lui poussait à y aller dans cet endroit. Pour régler un problème, pour montrer son amour, sa grâce. La Bible, elle nous invite à cette réflexion de ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? En allant à cette ville avec une grande foule qui lui suivait. Souvent, il avait des gens autour de lui. Avec beaucoup de problèmes. Les handicaps, les gens qui voulaient être guéris, les gens qui voulaient régler ces problèmes financiers, les gens qui voulaient. Mais il n'a pas s'arrêter. Il a continué à faire ce qu'il devait faire. Mais il a envoyé ses disciples, il a envoyé ses apôtres. Il nous a envoyés. Nous sommes là pour faire la même chose. Ou bien plus de ce que Jésus a fait, pas parce que nous sommes plus ou bien plus forts que lui. Non, parce qu'il a dit que nous allons faire ce qu'il a fait et encore plus. Mais comment on va faire ça? Par l'obéissance, par l'amour. Sans amour, on ne peut faire rien. Sans amour, nous serons comme les politiciens. Je ne sais pas, je ne connais pas tous. Hein? On parle, mais on ne vive pas. Je parle ce que vous voulez, mais je vive ce que je veux. Il faut faire ce que j'ai dit, mais il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Avec Jésus, non. Avec les évangiles, non. Avec la volonté de Dieu, non. Il a dit, vous devez faire ce que j'ai fait. J'ai aimé. J'ai partagé. J'ai écouté. J'ai pardonné. Je suis allé parmi les plus misérables de ce monde. Parmi les riches et parmi les pauvres. Dans toutes les classes, dans toutes les parties de la société. Jésus est allé dans cette époque. Le verset 13, il dit, le Seigneur, l'ayant vu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a vu. Combien de fois on voit? Jésus a vu. On voit aussi. Mais entre voir et sentir, il a une longue distance. Voilà le problème. Parce que je peux voir, je ne peux pas sentir. C'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Vous êtes là, mais je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter. Peut-être vous m'écoutez, mais est-ce que ça descend? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça va rester? Je ne sais pas. C'est à vous, c'est à moi d'ouvrir mon cœur pour que cette parole puisse entrer. Donc Jésus a vu. C'est à nous de décider d'agir parce que nous voyons. En portugais, mon pays, le Brésil, on dit toujours, je ne sais pas si ça va aller, hein, mais c'est pas. Il dit, c'est que les yeux ne voient pas, le corps, le cœur ne peut pas sentir. Et c'est vrai. Si on ne voit pas, on ne peut pas sentir. Si on ne va pas aller à l'hôpital pour visiter quelqu'un, on ne peut pas sentir. Peut-être on va sentir si on connaît, mais si on ne connaît pas. Peut-être on va sentir parce qu'on connaît le cancer, on connaît, voilà, AVC, on connaît, si, on connaît, oui. Ce que Jésus veut de nous, c'est que nous pouvons voir, mais pas avec nos yeux, pas avec notre compréhension, mais avec ses yeux, avec sa compréhension qui se trouve dans sa parole. Jésus, il a vu. Et aussi, il a eu des compassions. Voilà. Compassion. Il a des versions bibliques qui disent piété. Je pense que compassion, c'est plus profond. Piété. D'accord, ça passe. Peut-être. Pitié, pardon. Il faut me corriger. Parfois, je fais comme ça pour que vous puissiez revenir. Voilà. La compassion, c'est ça que nous devons avoir. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a vu, il a senti, mais aussi, il est allé. C'est ça. C'est ça les blocages. Voir. Senti et fait. Je pense que le texte, ce passage, c'est quelque chose de concret que Jésus a fait avec une seule femme, une seule personne. Il a vu, il a senti, il a agi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne pleure pas. Comment on va aller dans une situation de deuil, de mort, dans une famille, et le pasteur dit, il ne faut pas pleurer. Mais qu'est-ce que se passe? Pourquoi elle est venue ici, c'est qui? Ou bien Jean, je ne sais pas qui. Il dit, mais attention, frères et sœurs, ou bien les gens de la famille, il ne faut pas pleurer. Comment on ne peut pas pleurer? Si la psychologie dit qu'on doit pleurer, si on ne pleure pas ici, on va pleurer demain plus. On doit verser les larmes comme ça beaucoup. On doit mettre dehors ce que nous sommes en train de sentir pour ne pas tomber malade. Quand Jésus dit ne pleure pas, ce n'est pas quelques mots. Ce n'est pas des mots comme ça, des vaines paroles. Non. Quand il a dit ne pleure pas, c'était la certitude qu'il était là pour résoudre le problème. Si Jésus vient dans nos vies, si Jésus est venu dans nos vies, il nous a assuré qu'il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné déjà la vie éternelle. Pourquoi? Parce que cette action nous montre que Jésus, il a fait son œuvre complète. Il a vu, il a senti, il a agi. Maintenant, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui passe dans vos têtes, dans vos cœurs. Vous pensez, ah, j'ai passé là-bas sur la route nationale, il a un missile là-bas, qui s'assit là-bas. Je n'ai jamais lui donné quelque chose. Je n'ai jamais acheté quelque chose. Et maintenant vient la culpabilité. Il dit, je ne sais pas. Peut-être que ça vienne, mais que ça puisse nous changer. Que la culpabilité vienne. Mais nous devons marcher comme Jésus. On doit voir. Noël est là. Noël est là. Ça sera le moment où toute la France sera ouverte avec cet esprit de partage, n'est-ce pas? D'ouverture, de communication, de connexion entre les uns et les autres. Et là, nous devons vraiment utiliser ces moments pour leur partager. Ceux qui souffrent aussi. Jésus va aller vers, il est allé vers cette femme. Il a dit, ne pleure pas. Est-ce qu'on peut changer la vie de quelqu'un? Peut-être oui, peut-être non. On ne peut pas changer parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais on peut changer parce que nous sommes serviteurs de lui. Parce qu'on peut les écouter. Écoutez bien, Jésus a parlé à une femme. Ça c'était grave dans cette époque. Il ne pouvait pas faire ça. Quand même, l'autre moment qu'il a fait, que je vais parler d'ici un moment, qu'il est allé vers le cercueil, vers le jeune garçon qui était mort, il a touché le cercueil, le cœur. Il ne pouvait pas faire ça. C'était interdit parler avec les femmes. C'était interdit toucher à un cœur mort. Pas seulement un cœur humain, mais n'importe quel cœur. Ça, c'est la loi de l'Ancien Testament. Lévitique parle par rapport à ça. Donc, le Seigneur l'a parlé. Ne pleure pas. Jésus n'a pas resté dans la pensée, ok, un jour quelqu'un va venir aider cette personne. Non. Jésus, il a agi. D'une manière, parce que vous pouvez penser, mais est-ce qu'il a agi comme Dieu ou comme homme? N'est-ce pas? C'est ça la question. Et il faut oublier ça. Les actions de Dieu, par rapport aux miracles, c'était comme Dieu. Mais par rapport à parler, c'était comme homme. Il ne faut pas mélanger, parce que sinon, on dit, ah, c'est lui qui a fait, je suis homme maintenant, je suis femme, je ne peux pas le faire. C'est pas vrai. Ce n'est pas acceptable. Nous devons comprendre ce que Jésus a fait. C'est comme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire des miracles? Non. Mais si on lui prie, si on adresse à lui nos confiances, écoutez bien, nos désirs, qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux, il dit que la foi, c'est le ferme fondement de ce qu'on ne voit pas. Mais aussi, c'est la certitude de ce que nous recevrons. C'est grave? Comment on va déchiffrer celui-là? C'est simple. C'est prier avec certitude de que Dieu nous écoute. Quand je dis, Seigneur, écoute-moi. Je veux, Seigneur, que tu puisses vraiment aider cette personne qui souffre. Va. C'est déjà la foi, parce que c'est un désir dans mon cœur. Et là, Dieu peut faire beaucoup de choses que nous ne savons pas, et grâce à Dieu, parce que sinon on va devenir comme Dieu. Si on savait que notre prière pouvait changer beaucoup de choses qui ont déjà prié, on pouvait dire, mais il faut mieux. Il faut passer d'abord par moi. Hein? Vous voulez quelque chose? Il faut me demander d'abord, je demande au Père. c'est pas moi qui passe toutes tes choses, non. Jésus a vu cette femme. Cette femme qui souffrait. Cette femme qui a perdu son mari. Et maintenant, elle a perdu son fils. Je ne sais pas si vous connaissez la situation des veuves dans cette époque. Qu'est-ce qu'elle devait faire? La loi disait qu'elle, devait être soutenue par les 10 000 offrandes. Dans cette époque, oui. C'est vrai. Elle devait être soutenue. Mais vous pensez qu'il faisait ça? Vous pensez que les souverains sacrificateurs faisaient ça? Les scribes faisaient ça? Les juifs faisaient ça? Peut-être quelques-uns. Parce que c'était écrit dans la loi. Mais écoutez, Jésus savait, à mon avis, que cette femme devait souffrir. Mendier au bord de la route. Pensez à vous. Pensons à nous. Comment régler ces problèmes? Je pense que c'est là que Jésus vient, en voyant cette souffrance de cette femme. La réalisation d'une femme, pas seulement de cette époque, mais dans le monde musulman aussi, et juif, et tout ce qui suit, voilà, ces traits-là de ces religions. La réalisation de la femme, c'est d'avoir des enfants. Être marié, d'avoir des enfants. C'est fini, c'est tout. Ok. Si les femmes n'ont pas, elles sont maudites des dieux. Vous voyez? Elle a perdu son mari, elle a perdu son fils, elle était maudite et elle doit et elle devrait mendier, demander de l'argent, de nourriture. Jésus, en voyant ça, il n'a pas passé à côté. Viens, il a beaucoup de choses à faire. Ok, non, pas maintenant. Non. Il s'arrêtait pour nous montrer que nous pouvons faire aussi la même chose. Nous pouvons voir, nous pouvons sentir. Mais nous pouvons aussi agir. Quand il a dit ne pleure pas, il est allé, le verset 14, il s'approcha et toucha l'eau. Quoi? Il faut dire ce nom-là. Certes? Voilà, c'est bon. Vous parlez très bien. Ce qui le portait s'arrêtait. Pourquoi? Quelqu'un a touché. Oh, qui a touché? Personne ne pouvait pas. Le commentaire biblique parle que le cimetière était environ 10 minutes de la ville. Jésus n'a pas entré dans la ville. Il était à la porte de la ville. Il a vu toutes ces confusions-là. Il a vu une grande foule en train de venir. On peut rendre, vous savez, dans cette époque, comme au monde musulman aussi, les femmes, quand quelqu'un meurt, elle ne peut pas entrer dans le cimetière. C'est les hommes qui entrent. Et chaque femme, chaque famille qui suive, ok, le portait pour aller au cimetière, elle commence à pleurer en se frappant à la poitrine. Très haut. En disant que quelqu'un est parti, quelqu'un de notre communauté, de notre famille, voilà. Mais au même temps, il avait une grande foule qui est venue avec Jésus. Comment cet homme pouvait donner beaucoup de nécessités avoir une femme qui pleurait. Quand il a dit ne pleure pas, il est allé, il a ressuscité son fils. Il a ressuscité son pain de chaque jour. Donc Jésus, il a, je ne sais pas si c'est le mot, Anne-Marie, il faut m'aider aussi, André, et Annie, oui, fais ça, je ne peux pas rater aucun chose. Aujourd'hui, j'ai passé toute la semaine en train de répéter. Jésus est en train de socorru. C'est là que j'ai dit, Dieu, je ne vais pas. J'ai dit, Seigneur, je vais pas vraiment réussir. Donc Jésus, il est en train vraiment de s'y donner. Pour aider cette femme, cette veuve qui souffrait. Il a ressuscité son fils. Et en lui rendant, il est en train de dire, voilà ton fils. Voilà ta famille était restaurée. Et voilà aussi ton pain de chaque jour. C'est ça que l'Église doit faire. On doit écouter les gens qui souffrent. Quand il a dit ne pleure pas à la femme, il est en train d'écouter la souffrance de la femme. Il ne peut pas dire, ne pleure pas, je suis Jésus, je suis le Messie. Ok, il faut courir à moi, tu vas voir. Non. Quand il a dit ne pleure pas, il parlait à l'âme de cette femme, à la souffrance de cette femme. Il a dit, ne pleure pas. Je vais t'aider. Mais en même temps, il a donné le pain de chaque jour. Il a ressuscité son fils. Donc Jésus, il a, pour moi, dans ce passage-là, à mon avis, il a compris le plan vraiment pour lequel l'Église doit continuer à faire. C'est d'aller envers n'importe qui. Et leur parler, leur écouter, leur aider à devenir des hommes et des femmes dans la société, ok? Avec sa morale, enlever ses morales. Il le fait revenir à la famille, restaurer la famille. C'est ça que Jésus voudrait faire. Quand il a dit, ne pleure pas, il a ressuscité le fils, son fils. Il est mort, s'assit et s'est mis à parler. Jésus l'a rendu à sa mère. On doit aider, frères et sœurs, chaque personne qui souffre. On doit faire vraiment ce que Dieu voulait que nous fassions. C'est d'aimer. Si nous n'aimons pas, on peut se questionner si l'amour de Dieu est dedans nous ou bien non. Est en nous ou bien non. Ça, c'est la vérité. Parce que je ne peux pas passer. Oui, si je sais que la personne boit de l'alcool, peut-être je vais acheter quelque chose pour lui dire, tu veux, non, je veux de l'argent. Je veux, mais peut-être, est-ce que tu peux m'écouter, d'accord? Écoute, l'alcool, la cigarette, ça fait, c'est, tu vois ta situation. C'est pour ça que je ne vais pas te donner de l'argent. Mais je vais t'aider. Il a un coin, tu veux aller? Il a un endroit, tu veux aller? Ou bien tu vas manger quelque chose? Jésus n'est jamais passé par quelqu'un sans faire rien. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas fait tout, mais les disciples ils ont continué à faire pour lui. Il n'avait pas de temps, 3 ans, ce n'était pas suffisant. C'était suffisant pour accomplir son but de nous sauver, mais pas de faire toutes les choses. J'ai trouvé intéressant ce que ce commentariste biblique il parlait. Ça, c'est bon aussi pour Anne-Marie, elle va bien comprendre. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas le circuit des ondes sonores, voilà, c'est que Jésus, dans l'espace, que nous nions l'existence de la musique. Est-ce que la musique, c'est vrai ou faux? C'est vrai. La foi, c'est vrai ou bien non? C'est vrai. De même, ce n'est pas parce que nous sommes parfois incrédules que le Seigneur n'agit pas dans le monde. Ça, c'est vrai aussi. Parfois, on ne prie pas et Dieu agit. Seuls ceux qui vivent sous le registre de la relation de confiance, cet acte de foi, peuvent percevoir la réalité positive et bienfaisante de son action. Seuls ceux qui vivent sous le registre de la relation de confiance. Mais comment on peut avoir la confiance en Dieu si on a la peur de la mort? C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Le mourir, c'est ça? Ça veut dire, passer par la mort, pour moi, c'est la vie. Je vais gagner. La confiance en Dieu, c'est de se réveiller chaque jour, indépendamment de la souffrance. De ce que nous sommes en train de vivre, de ce que nous sommes bien ou pas bien, mais nous avons la paix, la confiance en lui. Ça, c'est la foi. C'est ça que Jésus a dit, ne pleure pas. Il est allé. Il a réglé le problème. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même les plus grandes parce que je vais vers le Père. Pour finir cette réflexion, dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, on va pas lire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. S'il vous plaît, il faut bien remarquer ça. Ainsi, Hébreux chapitre 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. On n'a pas besoin de prêtre, on n'a pas besoin de pasteur, on n'a pas besoin d'ancien, on n'a pas besoin de conseil, on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin de missionnaire, on a besoin de personne pour entrer dans le sanctuaire de Dieu. Maintenant, tout de suite, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que par le moyen du sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire des sachets. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas nous, hein? Les souverains sacrificateurs, jamais. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau. Voilà pour faire l'œuvre de Dieu. nous pouvons, nous devons s'approcher avec confiance. Parce que peut-être vous pouvez dire, mais j'ai prié le mais est-ce qu'il m'écoute? Écoute, le chemin est déjà ouvert pour nous. On doit prier lui en disant, Seigneur, peut-être ce n'est pas ton désir, mais c'est mon désir. Je te prie comme ça. Et lui prier de nous façon de que il m'écoute parce qu'il est mon père. Il a ouvert le chemin. Il n'a pas de barrière d'empêchement. Il n'a pas de passer ci, passer là. Pour parler avec lui, non. Pour prier avec lui, non. Que la veuve de Naïm, cette histoire, puisse continuer à nous toucher. Et continuer à nous faire y aller un petit peu plus, pas à pas, devant. Jamais s'arrêter, jamais reculer, mais y aller. Parce qu'il est là pour nous secourir. Secourir. Ça c'est difficile, hein? Mais vous comprenez. À nos esprits, à nos âmes et à nos nécessités personnelles. Que Dieu nous bénisse. Amen.